Hector Malot, Marichette. Première partie. Chapitre 1. Le train de Paris, qui devait arriver à 4 heures, était en retard de 35 minutes, et cependant, parmi les gens qui l'attendaient aux abords et dans la cour de la gare, tout le monde ne poussait pas des exclamations d'impatience ou de colère. C'est que, pour beaucoup, ce retard était une promesse. Le train était lourdement chargé. Un flot de Parisiens allait débarquer et envahir le pays. Saint-Maclou-la-Mer, Criquefleur, Quèvreville, Célauville, Viteautot-Normandeuse, Berneval-le-Malgardé, les maisons se loueraient, les hôtels s'empliraient, les voitures rouleraient, le commerce irait, ce serait une bonne saison. Elle serait d'autant mieux venue qu'un mois de juillet détestable avait fait rester les Parisiens chez eux jusqu'à ce jour. Enfin, ils arrivaient, on était prêt à les recevoir. Dans la cour de la gare, il y avait un entassement de voitures vraiment exceptionnel, diligences, omnibus, landaus, calèches, paniers, tous les véhicules du pays, neufs ou vieux, brillants ou moisis, étaient mis en activité de service pour cette circonstance. Mais ce n'avait pas été sans peine que, malgré les écriteaux, tout cela s'était rangé et tassé. Encore avait-il fallu, pour obtenir un peu d'ordre, les menaces de contravention et les jurons des gendarmes chargés de la police du stationnement. De toutes ces voitures, celle de Saint-Maclou avait de beaucoup meilleur air. À côté d'un grand omnibus à 30 places, couvert d'un coutil jaune et bleu, attelé de 5 postiers superbes, étaient alignés 6 landaus, sur le siège desquels se prélassaient des postillons, en gilets rouges et bleus galonnés d'argent, qui faisaient l'admiration autant que l'envie des autres cochers. C'était la première fois qu'ils arboraient leur livrée, et quand ils étaient entrés dans la cour pour venir prendre la place qui leur était réservée, conduisant lentement, bellement, fiers et majestueux, mais gênés aussi aux entournures par leur habit neuf, une clameur s'était élevée sur leur passage, et, après le premier mouvement de surprise passé, tous les yeux s'étaient ramassés sur le propriétaire de ces landaus, Belloc aîné, qui se tenait le dos appuyé contre une barrière, regardant ses cochers défiler devant lui. C'était un homme âgé de 45 à 50 ans, de haute taille, large d'épaules, bâti en cuirassier. Il était vêtu de la longue blouse bleue des marchands de bestiaux qui courent les marchés de la Normandie et coiffé d'un petit chapeau de paille posé en arrière sur une tête intelligente, aux traits expressifs et durs. Si, par certains côtés, il ressemblait aux Normands de race plus ou moins pure qui l'entouraient, par l'élévation de la taille, la forte charpente, les pommettes saillantes, le costume. Par d'autres, il s'en éloignait, au point qu'il était impossible à qui savait voir de le prendre pour un enfant du pays, par l'œil animé et perçant, par le teint bistré, les cheveux noirs, les joues creuses, le crâne large, le torse élancé et léger. C'était en effet un Béarnais qui, tout jeune, était arrivé en Normandie, marchant ambulant, la balle sur l'épaule, le maître à la main, et qui était resté à Saint-Maclou, flairant l'avenir réservé à ce village. Marchand de toile d'abord, puis messager, correspondant du chemin de fer, marchand d'eau-de-vie, marchand de bois du Nord, de charbon de terre et d'ardoise d'Angers, entrepreneur de construction, il avait accaparé successivement tous les métiers et tous les commerces qui donnaient du gain, si bien qu'en 25 ans, le porte-bal, l'aventurier, était devenu le personnage le plus important du pays, conseiller municipal et maire, agent électoral du député, commensal des sous-préfets qui ne voyaient que par lui. Vrai tyran du village, devant qui les petits n'étaient pas seuls à trembler, craint de tous, aimé de personne, méprisé par les dignes pour ses mœurs, il n'était estimé à sa juste valeur que par ceux-là seuls qui comprenaient ce qu'il lui avait fallu d'intelligence, de volonté, d'énergie, de souplesse, de flair, lui, ignorant et mal élevé, pour arriver à la situation que, de haute lutte, il avait enfin conquise. Quand les yeux des curieux le quittaient, c'était pour se porter sur son cousin Belloc jeune, plus connu sous le nom de Belloquet ou de Bilboquet, qui se tenait auprès du poteau des voitures de Criquefleur. Correspondant du chemin de fer aussi, celui-là, pour Criquefleur, comme le cousin l'était pour Saint-Maclou-la-Mer, marchand d'eau-de-vie, marchand de charbon, de bois, d'ardoise, entrepreneur de construction, mais pas maire, pas riche, agent du candidat qui n'avait pas su se faire nommer député, mal avec les autorités, chétif au lieu d'être fort, un vaincu, non un vainqueur. Pendant de longues années, Belloc jeune avait été le commis de son cousin, d'où le petit nom de Belloquet qu'on lui avait donné pour le distinguer et aussi le surnom de Bilboquet. Venu de son village pour être le second de son aîné, il avait montré pendant assez longtemps de la docilité et de la soumission. Mais du jour où il s'était cru l'égal de son cousin, et surtout du jour où, marié à une femme ambitieuse, il avait écouté les suggestions de celle-ci, il s'était révolté. N'était-il pas juste qu'ils fussent associés ? Si l'aîné avait la fortune, le jeune avait le savoir et l'instruction. Ils s'étaient séparés ennemis. Convaincu de sa supériorité, Belloquet avait cru qu'il réussirait aussi bien que son aîné, et comme la place était prise à Saint-Maclou, il s'était établi à Criquefleur, qui, lui semblait-il, valait bien Saint-Maclou et même valait mieux. Ce qui avait fait et ce qui faisait la fortune de Saint-Maclou, c'était les pentes vertes ou boisées de ses coteaux, au milieu desquelles, dans les cours et les herbages plantés de pommiers, on pouvait construire, en vue de la mer et à l'abri des vents d'ouest, des villas qui n'étaient point tassées les unes contre les autres dans un sable aride, mais qui avaient l'agrément de jardins ou de parcs, poussant leurs racines dans une terre fraîche et fertile. C'étaient aussi ces vallons, ces grasses prairies, ces herbages, ces chemins creux, toujours frais et ombreux, faits pour le plaisir de la promenade. Criquefleur, que deux lieues seulement séparaient de Saint-Maclou, n'avait-il pas aussi des coteaux boisés, des cours plantés de pommiers, des vallons et des chemins creux? Pourquoi, sur ces coteaux et dans ces cours, un entrepreneur intelligent ne trouverait-il pas à bâtir autant de maisons que Belloc-Aîné en avait construit à Saint-Maclou? Il n'y avait donc à entreprendre à Criquefleur ce qui, à Saint-Maclou, avait si bien réussi. Mais ce calcul, juste en théorie, s'était trouvé faux dans la pratique. Saint-Maclou était devenu une petite ville adoptée par la mode et par la vogue, Criquefleur était resté un village. L'aîné avait construit 100 maisons qu'il avait enrichies, le jeune en avait construit 10 qu'il avait tout juste empêché de mourir de faim. Et pourtant, ne valait-il pas son cousin? Ces maisons n'étaient-elles pas aussi solides, mieux entendues et plus élégantes? Vendait-il ses ardoises et son charbon plus cher? N'était-il pas lui-même aussi intelligent, plus polissé? Son cousin, parti tout enfant du village natal, savait à peine signer son nom. Lui, il avait travaillé, il s'était instruit. Mais rien n'y faisait. Son cousin prenait chaque jour plus d'importance et plus d'influence. Lui n'était malgré tout qu'un pauvre diable. On appelait son cousin le corsaire. Lui, on l'appelait Bilboquet. Que d'efforts, que de luttes cependant pour se rapprocher de cet aîné à qui tout réussissait. L'emporter sur lui était devenu chez le jeune homme une véritable manie, d'autant plus tyrannique que la constance de l'insuccès l'exaspérait. L'année précédente, pourtant, Belloquet avait obtenu un succès. À pareille époque, dans cette même gare, on avait vu entrer 6 petites voitures en osier, recouvertes d'un élégant tendelet, attelé de bons chevaux légers qui avaient été l'événement de la saison. On n'avait plus voulu prendre que les paniers de Belloquet. De Saint-Maclou, on venait exprès à Criquefleur pour les louer à l'avance, dédaignant les vieilles guimbardes du corsaire. Et comme pour aller de Criquefleur à la gare, il fallait traverser Saint-Maclou, c'était un triomphe qui se répétait 20 fois par jour de promener les tendelets aux couleurs tendres devant le bureau de son cousin. Mais voilà qu'au milieu de ce triomphe qui devait, semblait-il, se prolonger pendant un certain temps, apparaissaient les landaus et les postillons aux chapeaux enrubannés, les fouets claqués, les grelots sonnaient, les rubans volaient au vent, bleu, blanc, rose, vert, jaune. Un vrai coup de théâtre, tant le secret avait été bien gardé. Belloquet était resté abasourdi, sur ses jambes écartées, et ça avait été seulement quand il avait senti tous les regards moqueurs fixés sur lui, le dévisageant et le raillant, qu'il s'était remis un peu pour cacher son trouble. mais les gens qui s'amusaient de sa mine ne s'étaient pas tous contentés de le regarder et de riocher tout bas. Quelques-uns s'étaient approchés de lui. « Il va bien, votre cousin ? Jolie voiture ! C'est les Parisiennes qui vont sauter sur ces postillons galonnés d'argent. Ça, c'est une invention. C'est tout de même un homme à idées. » Un coup de trompe et un long sifflement les interrompirent. Enfin, le train arrivait.